Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission À votre avis. Nous allons parler du coup d'État avorté en Guinée-Bissau. Le président Oumaru Sissoko Embalo est sorti donc indemne, mais et on déplore des morts. On parle de 11 morts maintenant et des blessés graves dans cette attaque qu'il attribue à, je cite, ce qui s'oppose à sa lutte contre le trafic de drogue et la corruption, qu'il a mis en place, une situation qui intervient alors que la CDAO s'est réunie aujourd'hui à Accra pour discuter principalement du Burkina. Ce sera donc en l'absence, cette réunion s'est tenue en l'absence de trois pays, le Mali, la Guinée, donc le Burkina, qui sont tous suspendus. Alors, que vous inspirent tous ces coups d'État ou tentatives de coups d'État en Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'il s'agit d'un effet contagion ou doit-on parler de spécificité pour chaque cas? Nous avons notre premier auditeur, Ali Ibn Oumar, qui nous appelle du Tchad. Ali, bonsoir. Ali, vous êtes là?
Oui, oui, je suis en ligne.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir, je vous écoute.
Oui, alors on a vu une tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. Qu'est-ce que déjà cela vous inspire? C'est un coup d'État qui a échoué, mais c'est une situation qu'on voit ces derniers temps un peu partout en Afrique de l'Ouest.
Bien sûr, je me suis tellement ému de ce coup d'État. Donc, le fait de faire le coup d'État en Afrique de l'Est, c'est quand même un peu mauvais. Ça va nous faire la régression économique dans le pays de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, selon mon avis, que le coup d'État a voté. Mais ceux qui font vraiment coup d'État, ce sont des gens vraiment inconscients qui ne savent pas comment gérer l'administration. Et aussi, parfois, si je vois que si le président de comment dirais-je, au Mali, au Burkina, ceux qui voient que les choses ne marchent pas, bien sûr qu'on va faire le coup d'État. Parce que nous voulons le changement, en fait.
Et comment est-ce que vous appréciez quand même, disons, vous pensez que chaque pays peut-être a des raisons spécifiques ou qui font qu'on arrive à ces situations?
Non, je ne pense pas. Parce que quelque chose ne marche pas, on va faire le coup d'État, c'est ça. Parce que moi, je vois le coup d'État avorté là-bas, au pays de l'Afrique de l'Est. Moi, je ne vois aucune manière on peut procéder au coup d'État. Moi-même, je néglige ce coup d'État.
Il n'y a pas d'excuse pour vous pour faire un coup d'État?
Oui, il n'y a pas d'excuse.
Donc il faut dialoguer, si je comprends bien.
Oui, c'est ça, parce que le dialogue est important.
En tout cas, merci beaucoup Ali. Vous nous appeliez du Tchad. Nous avons Thierno Madiallo à Conakry. Bonsoir Thierno.
Oui, bonsoir Sarah Manja et bonsoir aussi le directeur.
Alors vous dites que tous les coups d'État ne sont pas les mêmes.
Oui, tout à fait. Il y a eu trois coups d'État réussis dans la sous-région, et un coup d'État manqué. Si vous analysez, vous voyez à la profondeur, vous verrez que les coups d'État ne sont pas disparus. Si on prend l'exemple en Guinée, le coup d'État du 5 septembre est intervenu parce que le président Alpha Condé a également changé la constitution et s'est imposé pour un troisième mandat qui a engendré plus de 200 morts et 500 détenus politiques. Donc, l'armée était le seul organe qui pouvait débloquer la situation en Guinée pour sauver le pays du chaos. C'est ce qui fait que ce coup d'État a été vraiment salué par l'ensemble des Guinéens ainsi que les partenaires de la Guinée. Donc, c'est ce que c'est un coup d'État nécessaire. Contrairement aux autres pays, si on prend l'exemple, je sais que certains ne vont pas aimer, mais si on prend l'exemple du Burkina Faso, c'est ce qu'il fallait éviter. c'était vraiment pas nécessaire dans ce pays de faire un coup d'État en cette période. Parce que le président en exercice, il était dans son second et dernier mandat. Et puis, l'insécurité règne. Si l'armée a manqué de moyens, l'armée doit rester, se revendiquer pour qu'on puisse améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions de combat sur le terrain. Mais venir sans prendre le président de la République et mettre à terre toutes les institutions républicaines, c'est vraiment une faute très grave. Parce que si nous restons un peu l'histoire concernant le Mali, lorsque Aya Sanogo s'est passé à Afrique, et il a débarqué de ses fonctions en disant qu'il n'y a pas assez de moyens pour faire face au terrorisme au nord du Mali. Depuis lors, le Mali n'a pas pu se retrouver. Ce n'était pas nécessaire à l'époque. Et aujourd'hui, l'armée burkinabé serait malheureusement restée la même chose. C'est quelque chose qui est vraiment déplorable. Ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, c'était comme l'a dit le président Ambalo, c'est un narcotrafic africain et autres qui ne veulent pas voir Bissau s'en sortir du couple, qui ne veulent pas voir vraiment un jeune, un président démocratiquement élu visionnaire et faire de la Guinée-Bissau un véritable État démocratique, un État de droit qui est vraiment respecté et respectable à travers le monde. Déstabiliser ce pays et faire ce pays un État narco, c'est ce qui est vraiment extrêmement dangereux et regrettable.
Alors, Tcherno, je vais vous demander de rester en ligne parce que j'ai vu votre discussion assez intéressante avec Charles Bazema qui est au Burkina Faso, que nous avons également en ligne. Alors, Charles, qu'est-ce que vous pensez de tout cela et de la position de Tcherno? Je vous donne la chance un peu de discuter en direct. J'ai vu que c'était une discussion assez intéressante. Ouais.
Lui, le fait que je ne peux jamais être pas avec lui. Voilà. Parce qu'il a dit que le coup d'État en Guinée est justifié et le coup d'État au Burkina Faso n'est pas justifié. Voilà. Demandez à M. Tcherno, est-ce que c'est normal qu'une armée qui défend la patrie doit être affamée au front? Est-ce qu'une armée doit être mal équipée devant des terroristes? Est-ce que c'est normal, même si ils sont mal équipés, mais est-ce que c'est normal qu'on va les affamer? Et ils sont obligés de sortir et aller chercher leur nourriture eux-mêmes. Et puis, par finir, on vient les massacrer. Au contraire, ça en vient qu'on a dit l'armée ne devait pas intervenir. Parce que c'est la population contre le président. Ça s'est passé au Burkina Faso quand Blaise voulait modifier la constitution. Le peuple est sorti, oui ou non? Le peuple est sorti, l'armée n'est pas intervenue. Voilà, le peuple est sorti, ils ont réglé leurs problèmes. Mais par contre, au Burkina et au Mali, on ne veut pas accepter que des gens, ceux qui sont censés acheter les armes, ces gens détournent l'argent. Ils construisent des villas dans les villages, ils construisent des palais, des châteaux dans les villages. Et l'armée, quand on doit investir, ils n'ont rien. Ils veulent qu'ils n'ont qu'à défendre la patrie comment? Ils veulent qu'on a l'armée n'a qu'à t'asseoir quand on va finir de tous les massacrer pour qu'ils interviennent. Moi je dis non. Je suis contre ces arguments et je vais même demain, je ne serai jamais d'accord avec lui. Mmh. Imaginez, des hélicoptères de combat, on peut acheter pour venir modifier au Burkina. Non, vraiment, je ne sais pas quelle base il s'est dit que le coup d'État de la Guinée est légitime et le coup d'État. Au contraire, là, on ne devrait même pas avoir coup d'État en Guinée.
Alors, Charles.
C'est au Mali qu'on doit avoir des coup d'État.
Charles.
Est obligé. Parce que s'il restait, ils allaient se faire massacrer.
Alors, on va. Alors, Tcherno est toujours avec nous. Charles, vous restez avec nous également. Tcherno, je vous écoute. Votre réaction?
Donc, comme je dis, j'aimerais dire à mon frère Charles Benjamin, les situations ne sont pas pareilles. Si elle évoque l'insécurité ou le terrorisme, si on prend l'exemple de la France a été frappée au cœur de Paris, à Saint-Denis. À Pataclan, il y a eu des morts. Aux États-Unis, elle s'est frappée au cœur de New York. Mais les forces armées américaines ou françaises ne se sont pas levées pour aller s'en prendre aux présidents ou aux institutions républicaines. Ils ont demandé l'annulation pour qu'on puisse améliorer et pour qu'on puisse donner des moyens qu'il faut pour faire face au terrorisme. Si aujourd'hui l'armée burkinabé justifie leur coup d'État parce que les terroristes continuent, non, on ne peut pas faire un coup d'État parce que les terroristes continuent de faire du mal à nos compatriotes. Ils ont demandé des moyens et l'appui pour faire face.
toute notre armée française aurait fait coup d'État depuis qu'il y a eu l'attaque à Paris ou l'armée américaine, mais ils l'ont pas fait. Ils ont demandé plutôt l'appui des États pour faire face parce que c'est quelque chose qui est nécessaire. Si à chaque fois ici en Afrique, que l'armée est passée dans les zones de combat, ils répliquent, ils prennent la fuite, ils viennent s'en prendre au palais présidentiel, ça devient extrêmement grave. Au Mali, depuis que Hachimi Goïta est là, est-ce qu'il s'est rendu dans les zones de combat comme l'a fait Abiy Ahmed en Éthiopie? Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, celui qui est à Ouagadougou, est-ce qu'il va prendre ses troupes et aller dans les zones de combat parce qu'il est chef de l'État comme l'a fait Abiy Ahmed? Je ne crois pas qu'il le fera parce que ce n'est pas de ses pieds.
Voilà.
L'armée ne peut pas aller venir s'en prendre au palais pendant que les clercs compatriotes sont abandonnés. Qui, pour le moment, a sécurisé les populations civiles et a été abandonné par l'armée burkinabé au nord?
D'accord, on va laisser à Charles répondre une dernière fois. C'est une discussion que je suis avec beaucoup d'intérêt puisque vous respectez tous les deux avec des points de vue différents. Alors Charles, vous avez le mot de la fin avant de passer à d'autres auditeurs.
Je ne sais pas qui va confondre les coups de, comment on appelle ça, les attaques terroristes en Amérique et les attaques terroristes comment on appelle ça au Burkina et je ne sais même pas au Mali. Parce que faut pas, l'armée française est bien équipée. L'armée américaine aussi, ils sont bien équipés. Maintenant, si vous voyez que ces pays sont attaqués, peut-être qu'il y a eu des failles à quelque part. Mais par contre, quand on dit une armée, l'armée doit être bien équipée pour aller au combat. Si ils sont mal équipés, ils vont faire le combat comment? Maintenant, ceux qui devaient leur donner les exemples, on dit que le Burkina, parce que c'est un pays pauvre, le Mali est un pays pauvre, on peut comprendre, même si l'armée n'est pas avec, l'armée, les armées, ils ne sont pas avec, ils voient la situation du pays. Mais ceux qui sont sentés, vous donnez des exemples, vous les voyez décliner. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez vous faire tuer voilà, au front pour eux? Vous n'allez pas aller. Vous n'allez jamais aller. Voilà, il y a FDP quand on donne tout le monde pas de lui. Il a du Yoro. Il a parlé fatigué. Il a demandé des soutiens. Voilà, mais voilà, il a assassiné.
Voilà, merci c'est beaucoup.
Ça, mon frère, je voulais.
Non. Tiens, voilà. En tout cas, merci beaucoup à Charles depuis le Burkina et également à Thierno à Conakry. Nous avons Alphonse Mbouaki à Kinshasa. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir Abdou.
Alors, dernier. Allez-y, oui, on vous écoute alors.
Je veux dire que dans ce coup d'État, il y a des similitudes dans la forme. Et puis, il y a des diversités ou des spécificités dans le fond. Vous savez, ce coup d'État, on assiste dans le pays ouest africain, perpétré par des militaires sans respect des pouvoirs démocratiquement élus. Cependant, dans chaque pays, les raisons ne sont pas les mêmes. Hein. En Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, c'est parce que Alpha Condé a démontré une dérive autoritaire insupportable. Il a brillé dans la malgouvernance et puis il s'est instauré un troisième mandat qui a provoqué le soulèvement populaire auquel il a réprimé brutalement. Et puis ce troisième mandat vraiment a débordé dans la coupe.
Mm-hmm.
Ça, c'est une raison qui a provoqué ce coup de tonnerre. Par contre, au Burkina Faso, suite à l'inaction des gouvernants démocratiquement élus face à l'insécurité, c'est ce qui a provoqué la colère des populations, qui a dit même le départ de Rochemark Caboret, et puis les militaires également n'avaient pas les moyens qu'il faut pour pouvoir combattre. Et ils étaient tués beaucoup. C'est ainsi qu'il y a eu une mutinerie qui a été suivi par le coup d'État.
Alors, pour le cas de la Guinée-Bissau, justement, le président venait à peine d'être élu il y a 2 ans. C'est vrai que c'est un pays avec une histoire de coup d'État aussi.
Le coup d'État, partout, il y a un effet contagieux. Hein. mais il y a aussi des spécificités. Donc, ce qui se passe en dehors de ça, c'est une question de contingent. Il y a un effet domino. Mais qui a été avorté. Vous savez que ça ne va pas continuer. Hein. C'est ce qui est de tout l'État. Comme il est avorté en Guinée-Bissau.
D'accord.
Alors, les gens qui sont dans les pays, dans les autres pays, prennent déjà des précautions pour pouvoir se sécuriser. Vous savez ce qui s'est passé dans les printemps arabes. Le printemps arabe a commencé comment? En Tunisie avec
Ben Ali
qui a été chassé, il a gagné l'Égypte où aussi Moubarak a été jugé, arrêté et jugé. Et puis ça arrivé au-delà des frontières en Syrie, où Bachar al-Assad aussi a frôlé
la colère populaire
qui a été réprimé.
D'accord. Alors, Alphonse, restez avec nous. Je crois que nous avons Togiam, mais avant de passer à Togiam, juste pour vous dire que le Burkina Faso a échappé à ces nouvelles sanctions, à de nouvelles sanctions de la CEDEAO, à l'issue donc de ce sommet qui s'est tenu à Accra. Il y a par exemple le président sénégalais, Macky Sall, qui dit il nous faut réfléchir sur ces coups d'État malgré les sanctions que nous prônons. Et donc il n'y aura pas pour l'instant de nouvelles sanctions. On demande aux nouveaux dirigeants du Burkina Faso de mettre en place un calendrier, une feuille de route en tout cas. Donc, Togiam, bonsoir.
Bonsoir VOA et toute ma sécurité à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
Alors le président bissau-guinéen Mbalo a échappé à un coup d'État dans un contexte un peu que vous comprenez. Hein, on a eu trois autres coups dans la région. Est-ce que selon vous il y a des similitudes ou c'est un effet contagion? Comment est-ce que vous expliquez tout ça?
Bien, je crois que ce qui se passe en Afrique en ce dernier temps, c'est un peu bizarre à comprendre. Je dirais que c'est aussi une façon de copier, parce que l'autre a fait comme ça, a réussi, donc je dois aussi faire autant. D'autre part, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience parce que je crois que nous sommes au 21e siècle où certains États qui sont colonisés il y a longtemps sont laissés vraiment dans leur soif. Et là, les jeunes sont en train de vouloir aussi montrer leur colère. Et c'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ont au moins étudié. Mais après, en Afrique, on considère comme si entrer dans l'armée, c'est le sous-métier. Donc quand les jeunes entrent là avec leur colère et puis voilà, après moins de choses, des réclamations et ça ne donne pas, ils finissent par faire ce coup d'État. Donc lorsque le peuple crie, ça serait vraiment important, intéressant de venir au secours de ce peuple-là. Le cas de Burkina, c'est la population. Le cas de Guinée, c'est le même. Le cas de Mali, c'est le même. Mais voir le cas de Guinée-Bissau qui vient que le président a échappé. Donc tous les restes des chefs d'État africains qui continuent jusqu'au nos jours à faire la volonté extérieure là, c'est chaud d'avoir les arrêter. Mais moi je dirais aux membres de l'Union africaine, même que voir la CEDEAO, de prendre au moins un petit temps pour regarder où est-ce que nous sommes en train d'aller, où est-ce que l'Afrique est en train d'aller. Je crois que ça serait vraiment intéressant pour pouvoir, même s'il y a possibilité de revoir même leur charte africaine, de l'Union africaine ou bien soit de la CEDEAO. Il faut que les choses tournent. Il ne faut pas qu'ils se réunissent pour passer à des condamnations. Et pour ces quatre cas, le quatrième cas qui vient d'être échappé, le président a échappé, je crois que c'est aussi des choses que les gens n'ont pas bien défini ça.
Donc, d'accord.
En réalité, en réalité, il ne faudra pas qu'on regarde ce qu'on est en train d'aller là de ce côté.
Mais d'accord.
On doit savoir que les jeunes veulent aller dans cette direction et que les Africains, les chefs d'État africains doivent aussi les suivre. Merci beaucoup.
D'accord. Merci beaucoup, Togiam, à N'Djamena. Nous allons en Afrique du Sud. Nous avons Eric qui est en ligne. Eric, bonsoir.
Oui, par rapport à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, dans cette partie du continent, c'est vraiment très inquiétant. C'est comme un vague qui s'empare maintenant de beaucoup de pays et c'est vraiment très dangereux pour notre par rapport à la démocratie, même s'il n'y a pas vraiment une démocratie réelle. Mais ces militaires viennent avec tous ces arcs, avec leurs arguments qui viennent avec, que je considère comme de la poudre aux yeux, en faisant croire au peuple qu'ils prennent le pouvoir parce que la politique a échoué, c'est-à-dire suite à la mauvaise gouvernance des politiciens. Or, eux-mêmes aussi ont failli à leur mission de défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Dans ces cas, ils doivent s'assumer aussi, ils doivent savoir que la responsabilité est partagée entre les militaires et les politiciens. Ils ne doivent pas utiliser ces arguments-là pour s'emparer du pouvoir ou s'accrocher au pouvoir. C'est le cas, par exemple, le cas du Mali nous inquiète un peu beaucoup lorsqu'on demande aux autorités de la transition actuelle de juste de présenter un chronographe pour les élections à venir. Ça pose maintenant un problème, il y a trop des histoires. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est vraiment très inquiétant par rapport à ce qui se passe dans ces pays-là. Même la communauté internationale, même d'autres organisations doivent vraiment intervenir pour apaiser la situation dans cette partie du continent.
Mmh. En tout cas, merci beaucoup. Alors, Eric, quand vous parlez d'apaiser, c'est un peu ce qu'essaie de faire la CEDEAO. On a vu quand même qu'il y a eu beaucoup de réactions après les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. C'est un peu compliqué, non?
C'est un peu compliqué lorsque... Par rapport, par exemple, à la situation du Mali, les autorités de la transition ne sont pas vraiment sincères envers, la CEDEAO, envers la CEDEAO ou la communauté internationale. Juste pour présenter un chronographe par rapport aux élections à venir, ça pose problème. Voilà pourquoi j'estime que pour apaiser la tension, c'est les autorités de la transition, par exemple maliennes, doivent présenter un chronogramme qui va apaiser, un chronogramme applicable.
D'accord,
qui
merci.
Va apaiser la tension et qui peut remettre le pays dans le bon rail.
D'accord, merci beaucoup, Eric. Alors, on va redonner la parole à Alphonse, peut-être pour terminer. Alphonse, comment est-ce que ces institutions, la CEDEAO, l'Union africaine, doivent équilibrer un peu la nécessité de faire respecter, disons, les institutions et ne pas imposer des sanctions qui peuvent être impopulaires?
Je savais que c'est la CEDEAO a compris, c'est pourquoi elle vient de viser la clémence envers la gente burkinabé. Parce que la gente burkinabé aussi a été coopérante, vous savez, cette gente a utilisé des propos assouplis par rapport au chronogramme. Ce que ça a compris la CEDEAO, elle a utilisé. Cet apaisement, vous savez que le Mali est en porte-à-faux avec la CEDEAO parce qu'il ne respecte pas son calendrier. La gente malienne n'est pas sincère et puis elle ne respecte pas la transition, alors que la charte donne un autre chronogramme. Hein, il prévoit un chronogramme de 18 mois, mais cela a provoqué la colère. Et puis, la CEDEAO doit comprendre que le régime de sanctions ne produit rien. Parce que toutes les sanctions qu'il a prises contre les gens ont provoqué la colère de la population et ont provoqué, et provoqué comment un bras de fer avec tous ces pays. C'est pourquoi la CEDEAO doit user d'assouplissement. Dans ces mesures, dans ces décisions, parce que ces pays sont souverains.
Hein. D'accord, donc, merci beaucoup.
De dialogue.
Voilà, merci beaucoup Alphonse. Je remercie Lionel Gaïma qui était à la réalisation et Nashwa Al-Khali à la console, Abdourahmane Dia à présentation. Dans quelques instants, un nouveau journal sur VOA Afrique. Au revoir.